fin du séminaire, enfin avant 6 heures. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de présenter un dossier de texte que j'ai réuni au fur et à mesure de certaines recherches et dont le thème est la relation entre l'écrit et l'oral, qui est un thème qui intéresse un certain nombre d'entre vous, je le sais, pas forcément pour le XVIe, XVIIIe siècle, mais qui est un thème aussi d'histoire contemporaine à partir des enquêtes d'histoire orale. Et donc, c'est cette tension entre la fixation écrite de paroles énoncées qui est le cœur du séminaire, et en même temps avec un point d'entrée très spécifique, mais qui est fondamental, et qui est la question de la ponctuation des textes, puisque la ponctuation peut être prise entre la restitution de l'oral, ou disons l'organisation de l'oralité, et de l'autre côté, peut être située à l'intérieur d'un pur cadre comme aujourd'hui, grammatical et syntaxique. Et donc c'est pour ça que j'ai rassemblé, en laissant ici leur langue originale à chacun des textes, mais évidemment je vais les traduire pour ceux qui ne comprennent pas toutes les langues qui sont sur cette, y compris le latin d'ailleurs, qui sont sur cette... ce petit dossier. Alors, pour donner une entrée dramatique à cet exposé, on peut commencer avec ces lignes qui sont extraites de la pièce de Christopher Marlowe, Édouard II. C'est l'histoire du meurtre d'Édouard II par l'ambitieux Mortimer. Et on est là, vers la fin de la pièce, à la quatrième scène de l'acte 5, dans lequel Mortimer a ordonné le meurtre du roi qui est emprisonné. Et il s'adresse à lui-même. C'est une tirade qui est un moment dans lequel Mortimer pense à haute voix sur la scène. Et donc, vous avez là le texte numéro 1. Je peux lire et le traduire au fur et à mesure, avec peut-être la traduction telle qu'elle apparaît dans la Pléiade, mais pas forcément. « The king must die, or Mortimer goes down. The commons now begin to pity him yet. » Alors, on peut dire le roi doit mourir, ou bien Mortimer, c'est-à-dire moi-même, je suis perdu. Le peuple, the commons, commence à prendre pitié de lui, puisque ce roi déchu se trouve emprisonné. Yet, he, that is the cause of Edward's death, is sure to pay for it when his son is of age. Évidemment, certes, celui qui est la cause de la mort d'Edward, c'est-à-dire lui, Mortimer, est sûr de payer pour son crime lorsque le fils du roi sera en âge de le faire. And therefore, will I do it cunningly? Et c'est pourquoi je vais le faire avec ruse, avec subtilité, cunningly. This letter, written by a friend of ours, contained his death, yet bid them save his life. Cette lettre, qui a été écrite par un de nos amis, contient sa mort, et pourtant, elle invite à lui sauver la vie. Et alors, comment cette ambivalence, cette contradiction du sens, dans la même ligne, est-elle possible ? Eduardum occidere nolite timere, bonum est. Et Mortimer traduit à la fois pour lui-même et puis pour le public du théâtre cette phrase latine qui a été écrite sur un billet. Et sa traduction, c'est « Fear not to kill the king, it is good he die ». Parce que dans le latin, « nolite timere », ne craignez pas « Edwardum occidere », de tuer Edward. « Bonum est », c'est bien. But read it thus, and that's another sense. Mais si vous le lisez de cette manière, un autre sens apparaît. Eduardum occidere nolite timere bonum est. Kill not the king. It is good to fear the worst. puisque dans le latin, à partir de ce moment-là, nolité s'applique non pas à timere, qui suit, ne craignez pas de, mais s'applique au mot qui précède, occidere, ne tuez pas, Edward, timere bonum est, c'est bon de craindre. Unpointed as it is, c'est-à-dire ce texte sans ponctuation, on le fera partir. Parce que si, une fois le roi mort, unpointed, sans ponctuation, that being dead, une fois le roi mort, si par chance ou par hasard on le découvre, Matrevis et les autres, c'est-à-dire ceux qui vont être les agents du meurtre du roi, c'est eux qui porteront le blâme. Et nous, Mortimer, qui en sommes la cause, nous serons disculpés. Donc c'est un texte dans lequel, je disais une entrée dramatique, la vie ou la mort d'un roi dépend de la place d'une pause ou d'une virgule, ou plus, de manière plus exacte, l'inculpation de qui a tué le roi dépend de la place à laquelle le lecteur va introduire une pause, c'est-à-dire avant ou après nolité, ou avant ou après timere. Et donc, du coup, la responsabilité du sens, mais ici un sens qui est le meurtre d'un roi, est laissée tout entier au lecteur et tout entier à la ponctuation que le lecteur va faire du texte. Soit qu'il considère que nolité s'applique à timere, et dans ce cas-là, il sera assez hardi pour tuer le roi, soit qu'il considère, comme pourra le soutenir Mortimer si le billet est trouvé, que nolité s'appliquait à occidere, c'est-à-dire ne tuez pas, Edouard, il est toujours bon de craindre. Donc on voit ici une entrée en matière sur le rôle de la ponctuation, et ici le billet est écrit comme l'étaient les textes latins, c'est-à-dire en scriptio continua, sans aucune ponctuation. Et du coup, le découpage du texte, et dans ce cas-là, sa signification même, sont laissés à la responsabilité, à la décision du lecteur, à qui sera imputé le meurtre, non pas à celui qui l'a ordonné, qui pourra toujours dire que ce billet demandait à ce que Edward ne soit pas tué, ou elle sera imputée à celui qui a lu qu'il ne fallait pas craindre de tuer le roi Edward. Du coup, on voit avec ce jeu de Marlowe sur ce texte unpointed, non ponctué, sans ponctuation, on voit un des premiers enjeux fondamentaux de la ponctuation, c'est-à-dire en guidant l'œil ou en guidant la voix, de construire la signification. Et on trouverait évidemment de multiples réflexions sur cette idée ou cette réalité de la ponctuation construisant la signification et dans ce cas-là pouvant construire en son absence une signification purement donnée par le lecteur et qui entraîne une interprétation contradictoire du même texte. Et on est tout de suite confronté avec ce texte à cette tension entre une ponctuation qui est liée à l'œil et une ponctuation qui pourrait être une ponctuation qui est celle de la voix qui lit. Et dans un exposé que j'avais fait une fois ici au collège, j'avais cité un texte d'Yves Bonnefoy qui s'appelle « Les deux points, c'est un peu en prose la poésie ». Et Bonnefoy distinguait très clairement deux significations ou deux systèmes de ponctuation. Je le cite. Vous savez que c'est à la fois un poète, un écrivain, il a été ici professeur durant un certain nombre d'années. La ponctuation qui dégage les articulations d'un texte, c'est celle que réclame la syntaxe, je suppose, et qui tend ainsi à coïncider avec les structures de la pensée. Tandis que celle qui aiderait la lecture serait là plutôt pour comprendre les besoins de la voix ou mettre en évidence des rythmes, des sons. En somme, non pas pour penser, mais pour séduire. Et Bonnefoy concluait plutôt en faveur de la première ponctuation, c'est-à-dire une ponctuation syntaxique qui permet d'articuler et de donner à voir ou à lire la pensée à l'intérieur du texte. Mais on peut dire que pour l'époque qui m'intéresse, c'est-à-dire les 16e, 17e, 18e, c'est évidemment la seconde dimension qui est la plus fondamentale, c'est-à-dire les relations entre la ponctuation d'un texte et son oralité. Soit que le texte soit postérieur à l'oralité, la performance orale du texte, et qu'elle essaye de garder quelque chose de cette oralisation, soit que la ponctuation soit antérieure à l'oralité et du coup guide, comme le disait Bonnefoy, la voix qui est en train de lire. Donc, on a là une question qui se trouve historiquement essentiellement liée à ce rapport entre oralité et écriture. Une première manière de le voir, ce sont les réformes, les propositions de réforme de l'orthographe et des graphies, telles qu'on les voit surtout en France et en Angleterre au XVIe et XVIIe siècle. Cette même réalité existe dans le cas du castillan, mais la langue espagnole a toujours été considérée comme celle qui devait ou déjà avait la plus grande adéquation entre ce qui s'écrit et ce qui se dit. Lorsqu'on prend la première grammaire de la langue castillane, la grammaire d'Antonio de Nebrija, qui a été publiée en 1492, c'est un des éléments de l'année 1492, avec la découverte de Christophe Colomb, la reconquête du royaume de Grenade, et la grammaire de Nebrija, il écrit dans le prologue de cette grammaire « Il nous faut écrire comme l'on prononce et prononcer comme l'on écrit ». Tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. Et durablement, même si dans le cas de Nebrija, c'est aussi un appel à aller plus loin encore dans l'adéquation entre les graphies et les prononciations, durablement, l'espagnol, le castillan, a été considéré comme la langue dans laquelle cette relation était la moins imparfaite possible et la plus étroite possible. Et c'est sur ce modèle-là que les réformateurs de l'orthographe en Angleterre et en France au XVIe et XVIIe siècle s'appuient pour leurs propositions. Parce que finalement, il n'y a que deux solutions pour rendre adéquat ce qui se prononce à ce qui s'écrit et ce qui s'écrit à ce qui se prononce. La première solution, qui serait, elle, liée au latin, mais introduit dans les langues vulgaires, c'est de prononcer toutes les lettres des mots. Et c'est l'exemple numéro 2 que j'ai pris dans une comédie de Shakespeare, Love's Labour Lost, dans la première édition, 1598, dans laquelle il y a un pédant qui s'appelle Holofernes, un savant, un docte, et qui, dans ce passage que j'ai copié ici, se moque d'un Espagnol, Don Adriano Armado, qui, pour lui, prononce l'anglais en trahissant cette bonne manière de prononcer l'anglais et qui serait de prononcer l'anglais comme du latin. Et vous voyez le texte. « He draws out the thread of his verbosity. » Il déroule le fil de sa verbosité, « finer than the staple of his argument. » Plus finement que ne le permet la fibre de son argument. I abhor such fanatical fantasism. J'ai horreur de ces fantaisistes fanatiques, such unsociable and point device companions, de ces compagnons insociables et vétilleux, ces wreckers of orthography, ces bourreaux de l'orthographe. Et alors pourquoi il a horreur, Holoferne, le pédant qui pense que l'anglais doit se prononcer comme le latin de Don Adriano Armado pour cela? Parce qu'il est parmi ces bourreaux de l'orthographie, de la prononciation, mais en même temps la manière de l'adéquation entre ce qui est écrit et ce qui est dit. ces pédants, dont Armado, speak doubt fine when he should say doubt, avec la prononciation du B. Debt when he should pronounce debt, D-E-B-T, not debt. Eclipse, c'est-à-dire il appelle cough, cough, sans la prononciation du L. Half, off, sans la prononciation du L. Neighbor, vocatur, neighbor. Neig, abbreviated, nay. This is abominable. C'est abominable, which he would call abominable without the pronunciation, sans la prononciation du H. It insinuates me of infamy, ne intelligis dominis, to make frantic lunatic. Il m'incite à l'infamie, vous comprenez, monsieur, il m'incite à cette insanité de devenir un fou frénétique. Cela m'inciterait à devenir un fou frénétique. Et ne intelligis domine, c'est pour bien marquer son caractère pédantesque, vous comprenez, monsieur, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'ici, la situation ridicule qui est imaginé par Shakespeare, c'est une des résolutions possibles de la distance entre ce qui s'écrit et ce qui se prononce en prononçant tout ce qui est écrit. Et donc le latin devrait être prononcé, selon Holofernes, comme l'anglais devrait être prononcé comme le latin, debt, D-E-B-T. Toutes les lettres doivent être prononcées. Et avec ce jeu sur abominable, qui est la prononciation du pédant, par rapport à abominable, qui serait sans doute la prononciation non seulement de Don Adriano Armado, mais peut-être des Anglais qui sont présents dans la salle du théâtre. Une autre solution, évidemment, moins extravagante et sans doute plus répandue, consiste à transformer ce qui est écrit pour rapprocher de ce qui se dit et de la manière de prononcer, donc d'ajuster la graphie des mots à la prononciation des mêmes mots. Et c'est ce qu'on trouve dans les titres que je cite en texte 3, c'est ce qu'on trouve dans les titres des réformes de l'orthographe qui ont été présentées en Angleterre entre les années 1570-1580. Vous voyez que la première, celle de John Hart, de 1569, a pour titre « On orthography », orthographie, c'est donc le spelling, la manière d'écrire les mots en rapport avec leur prononciation, contenant l'ordre exigé, normal, correct, et la raison de « how to write or paint the image of man's voice », c'est-à-dire comment écrire ou peindre l'image de la voix de l'homme. C'est-à-dire ici, l'orthographe a pour fonction d'être au plus près de ce que les voix disent, c'est-à-dire les graphies doivent s'ajuster aux prononciations. Et une autre réforme, William Bulloch en 1580, un livre pour l'amendement de l'orthographe, For English Speech, wherein a most perfect supply is made for the once and double sound of letters in the old orthography. Et donc vous voyez que là encore, cette réforme de l'orthographe s'adresse à et est fondée sur les manières de dire, English speech, la manière de prononcer l'anglais. Et donc c'est de l'Holoferne à l'envers, c'est-à-dire non pas prononcer ce qui est écrit, mais écrire les mots comme ils se prononcent, et en particulier en supprimant des lettres inutiles. Et on pourrait, je parle sous le contrôle de nos amis brésiliens, voir qu'une des différences entre le portugais du Portugal et le portugais du Brésil, c'est cette réforme orthographique qui a fait supprimer dans le portugais du Brésil les lettres qui ne se prononcent pas et qui crée un écart de langue qui est plus fort que par exemple dans la langue castillane. Qui explique d'ailleurs, bon, ce sera un autre sujet, de l'existence finalement derrière d'une même dénomination de langues qui ont tendance à devenir de plus en plus différentes, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi un même livre peut être traduit deux fois en portugais, c'est-à-dire en traduit portugais du Portugal et traduit en portugais du Brésil. C'est non seulement une question évidemment de cet respect d'un orthographe hérité au Portugal et d'un orthographe simplifié au Brésil, mais c'est aussi évidemment une question de l'édition et du marché du livre. Mais il reste pas moins qu'on voit qu'il y a là un exemple contemporain de ce que cherchaient John Hart ou William Bulloker, c'est-à-dire d'ajuster les graphies aux manières de dire. En France, les réformes de l'orthographe essayent aussi d'introduire une écriture orale. Et j'ai pris comme exemple le texte de Ronsard, qui est dans le prologue de la Franciade, touchant la... prologue de la Franciade de 1565, je crois. Il faudrait le vérifier. Et on y voit la chose suivante, dit Ronsard, quant à notre écriture, elle est fort vicieuse et corrompue. Il veut parler là, des graphies, de l'orthographe. Et me semble qu'elle a grand besoin de réformation et de remettre en son premier honneur le K et le Z, et faire des caractères nouveaux pour la double N à la mode des Espagnols, Eñe. Il ne la désigne pas comme N avec tilde, mais il la désigne comme un double N. Ou pour écrire, par exemple, pour écrire Monseigneur, et non pas le G et N, mais le N avec tilde. Et une L double pour écrire orgueilleux, c'est-à-dire en fait comme si c'était un syntagme de double L. Et quand il dit faire des caractères, ça peut aussi avoir une traduction pour la typographie. C'est-à-dire que les caractères dans la case du compositeur devraient comporter un N avec tilde, qu'il mettrait toutes les fois où il y a Nio, Monseigneur, et un double L, qui serait une lettre formée de deux lettres, mais une seule lettre, comme en espagnol, où on trouve dans les dictionnaires une partie spéciale pour tous les mots qui commencent par un double L. Et du coup, il explique aussi d'autres textes que le K et le Z pourraient remplacer tout un ensemble de lettres devenues inutiles, le C, le Q ou le S. Et donc on écrirait rose avec un Z, qualité avec un K, langage avec J. Donc on pourrait supprimer Q, C et aussi d'autres lettres en utilisant plus systématiquement le Z pour tous les sons en forme de S et le K à la place du Q, U qui commence de nombreux mots. Donc c'est une idée avec cette référence à la mode des Espagnols. Cette référence qui laisse supposer qu'en espagnol, peut-être en partie du fait de l'existence de lettres qui n'existent pas dans l'alphabet utilisé pour le français et par les imprimeurs en France, on atteint au plus proche d'une relation entre ce qui se dit et ce qui s'écrit, puisque ce qui s'écrit est la représentation graphique d'une manière de prononcer. Donc on voit, c'est un sujet en lui-même extrêmement intéressant, ces propositions de réforme de l'orthographe, des graphies, parfois de l'alphabet, comme dans le cas de Ronsard, pour atteindre ce but qui est désigné de manière ridicule et pour faire rire par Holoferne dans Peine d'amour perdue, avec cette idée d'un retour au latin comme modèle, matrice de la prononciation des langues modernes. Et c'est évidemment toujours l'alphabet lui-même qui paraît évitant est toujours évidemment un objet de débat. Les académies pour les pays de langue espagnole ont débattu non pas autour du double L qui reste toujours un syntagme à part et qui est une rubrique de dictionnaire, mais pour une association de lettres qui m'est plus chère, c'est-à-dire le CH, qui commence certains noms propres, et qui, pendant longtemps, était tenu comme séparé, comme ayant un espace propre, et maintenant a été réintroduit à l'intérieur de la séquence alphabétique des C. et qui, du coup, avait entraîné des tensions assez fortes entre les pays d'Amérique latine qui voulaient rester favorables, à cette idée d'une singularité de l'espagnol, y compris dans les dictionnaires, sous la forme d'une partie spécifique pour tous les mots qui commencent par CH, et d'autres qui l'ont emporté en général et qui ont unifié, supprimant ce syntagme CH considéré comme une lettre, pour réintroduire les mots et les noms propres à l'intérieur de l'ordre alphabétique. Et d'autre part, on peut voir que cette variation sur le nombre de lettres qui constituent les alphabets, évidemment dans les langues alphabétiques romanes, peut être aussi variable. Et que quand Borges, par exemple, dans la bibliothèque de Babel, imagine que cette bibliothèque contient tous les livres que l'on pourra écrire par les associations entre toutes les lettres de l'alphabet, il donne un chiffre qui est propre à l'espagnol et qui n'est pas immédiatement transposable pour d'autres alphabets qui ont ou plus ou moins de lettres que l'alphabet espagnol. Donc, c'est une question importante de penser à ces réformes de l'orthographe, puisque j'ai pris l'exemple du portugais, mais il y a d'autres exemples où la réforme de l'orthographe viserait, souvent sans succès, à supprimer les lettres qui ne se prononcent pas dans les mots. Alors, face à cette première réalité, qui est une réalité, on peut dire, de réflexion, de réforme sur l'orthographe, on a une deuxième réalité qui est la réalité de l'imprimerie, la réalité des innovations introduites au XVIe siècle dans les imprimeries en rapport avec la ponctuation. Et on peut dire que ici, l'attention s'est portée presque uniquement sur les pauses, c'est-à-dire les durées des pauses dans le discours. La fixation par les signes de ponctuation qui sont encore les nôtres de la durée inégale des pauses dans un discours. Mais évidemment, si on parle de durée des pauses dans un discours, c'est que l'intention fondamentale est liée avec un discours qui est dit oralement, dans lequel le lecteur va jouer, comme pour une partition musicale, sur des durées inégales de pause. Un des textes fondamentaux, c'est pour le français, en 1540, ce texte écrit par Étienne Dolet, qui était imprimeur à Lyon, « La manière de bien traduire d'une langue en autre, davantage de la ponctuation de la langue française, plus des accents », dit-il. Alors j'ai extrait ce passage où l'on voit très bien que la réforme ou l'introduction dans la langue écrite imprimée de différents signes de ponctuation est directement liée avec une oralité qui peut ou doit respecter, pour des raisons soit physiques, soit logiques, des pauses de durée inégales. Tollet écrivait « Tout argument et discours de propos, soit oratoire ou poétique, est déduit et construit, est organisé par période ». Période est une diction grecque que les latins appellent clausula ou comprehensio verborum, c'est-à-dire une clausule ou une compréhension de parole. Ce période, ou autrement clausule, est distingué et divisé par les points susdits. Un peu plus haut, il a expliqué qu'il y avait trois ponctuations, le point à queue qui est la virgule, le comma qui est en fait le point-virgule et le point rond qui est le point final. Et communément, ne doit avoir que deux ou trois membres une période, séparée par l'un ou l'autre. Enfin, séparée par ou bien le point à queue virgule ou bien le comma point virgule et terminée avec le point rond. Car si par sa longueur, la période excède l'haleine de l'homme, c'est-à-dire le souffle, il est vicieux. Donc on voit que dans le cas de Dolet, il y a la fragmentation en phrases séparées par des points ronds, des points finaux, dépend directement d'une contrainte physique qui est le souffle de l'individu qui se retrouve aussi pour les séparations à l'intérieur de cette période par des séparations qui non seulement correspondent à ce que l'on peut dire dans un même souffle, mais correspondent aussi à des division logique, les compréhensions de parole, comprensio verborum. Dans la langue va entrer, enfin dans la langue écrite imprimée, va au cours du XVIe siècle se normaliser cette utilisation des trois ponctuations mentionnées par Dolet, virgule, point virgule et deux points, et aussi va être introduite quelque chose qui est nos deux points un peu plus tard. Les deux points sont rares avant 1550 et plus fréquents fin du siècle et au XVIIe siècle. Mais cette nomenclature en trois ou quatre pauses inégales est reprise dans tous les textes. Je pense que, à vrai dire, le comma est en fait l'équivalent de l'anglais colonne, c'est-à-dire les deux points. Et c'est le point virgule qui est semi-colonne, qui est introduit plus tardivement. Donc la ponctuation de Dolet, c'est virgule, deux points, point final. Et c'est une ponctuation qu'on retrouve, par exemple, un texte, Instruction des enfants, Genève, une édition de ce livre d'Olivetan, et où sont distingués la virgule ou point à queue, les deux points et le point final. C'est là le système ternaire, trois durées de pause, et le point virgule va venir s'insérer entre la virgule et les deux points. Donc, on a dans les dictionnaires du XVIIe, Furtière, Richelet, le dictionnaire de l'Académie, la reprise de ce système qui définissait des pauses dans le discours. Et du coup, des articulations pour l'œil qui lit, indépendamment de la parole qui prononce. Mais reste une autre dimension que la ponctuation, en particulier imprimée, qui peut avoir ensuite des appropriations dans les manuscrits, même si le plus souvent, lorsque vous comparez un texte imprimé et un texte manuscrit au XVIe, XVIIe, vous voyez qu'il y a une plus grande pauvreté, plus grande rareté de la ponctuation dans le manuscrit que dans l'imprimé. Il restait un autre problème, qui est celui du ton, de l'intensité, de la hauteur. Comme dans une partition musicale, on inclut dans une partition musicale des durées inégale de pause, mais on inclut aussi des indications sur possibilité de la hauteur, de l'intensité de la note. Et la ponctuation imprimée n'a jamais introduit un système réglé pour indiquer des emphases ou d'indiquer des tons plus bas. Et un sujet aussi passionnant, c'est de voir comment certains auteurs, ne se contentant pas de cette ponctuation de durée de pause, essayent de trouver des indications qui vont permettre de marquer les moments où on doit élever la voix. Mais on est plus encore que dans le système de pause devant une ponctuation d'oralité, une ponctuation qui est une indication de hauteur de voix. Alors un exemple, c'est celui donc là de Ronsard dans la Franciade au lecteur, où il s'adresse à ce lecteur de ce grand poème épique. Je te supplierai seulement d'une chose, lecteur, c'est le numéro 6, de vouloir bien prononcer mes vers et accommoder ta voix à leur passion, et non comme quelques-uns les lisent, plutôt à la façon d'une missive ou de quelques lettres royaux. C'est un texte intéressant parce qu'on voit qu'il indique la pratique normale de lecture à haute voix, à la fois des lettres royaux, c'est-à-dire de tous les documents, édits, proclamations, déclarations, arrêts, qui sont publiés, rendus publics par des lectures à haute voix, mais qu'il évoque aussi les missives, c'est-à-dire les correspondances, les lettres. Et on sait que les lettres, même apparemment des lettres d'ordre privé, sont l'objet d'une lecture à haute voix, ce qui fait ranger les lettres dans les poétiques du côté des discours. Alors, pour lui, pour son poème, il ne s'agit pas de les lire comme ça, parce que là, c'est une lecture qu'il considère comme moins expressive. Il les lise plutôt à cette manière que comme la manière d'un poème bien prononcé. « Et je te supplie encore, de rechef, où tu verras cette marque, point d'exclamation, vouloir un peu élever ta voix pour donner grâce à ce que tu liras. » Et on voit que c'est un détournement de la ponctuation, parce que ce n'est pas forcément une phrase exclamative. Mais si, dans le texte, il y a un point d'exclamation à la volonté de l'auteur, ça veut dire que le lecteur, à ce moment-là, doit hausser le ton, lire avec une emphase, avec une voix plus forte. On aurait d'autres exemples que je n'ai pas repris ici, qui ont été bien montrés par Georges Forestier pour Racine, dans les premières éditions des pièces de Racine, par la volonté de Racine ou pour une autre volonté, j'y reviendrai, il y a un usage détourné, non pas du point d'exclamation, comme chez Ronsard, mais du point d'interrogation. Et ce que l'on a souvent pris pour des erreurs typographiques, c'est-à-dire d'ex-points d'interrogation dans des phrases qui ne sont pas interrogatives, ou l'absence de points d'interrogation dans des phrases qui sont interrogatives, est en fait une indication d'intensité, c'est-à-dire qu'avec le point d'interrogation, la voix doit s'élever. Un exemple dans la Thébaïde, « Parlez, parlez, ma fille !» Point d'interrogation, mais ce n'est pas du tout une interrogation. Simplement, la vision du point d'interrogation avant, après ma fille donne une emphase sur le terme. Et à l'inverse, il y a des phrases, toujours dans la même Thébaïde, où il n'y a pas de point d'interrogation, alors que c'est une phrase interrogative, mais qui indique qu'il faut garder là une unité de ton, sans aucune élévation de la voix. « Ma fille, avez-vous su l'excès de nos misères ?» Donc, il n'y a pas de point d'interrogation, alors que la phrase est évidemment interrogative, mais pour indiquer que, comme en musique, elle doit être maintenue dans une sorte de continuité, de ton unique. Donc, on voit qu'il y a eu cet effort pour détourner des ponctuations, point d'exclamation, point d'interrogation, pour en faire des signes d'intensité, des indications d'emphase. Et c'est dans ce même registre que je crois que si les auteurs, eux, étaient sensibles à cette question de trouver des indications d'intensité, du côté des imprimeurs, confrontés à la même réalité, ils ont choisi un autre parti qui consiste à utiliser les lettres capitales dans des mots qui ne sont pas des noms propres ou qui ne sont pas les premiers mots d'une phrase. Mais la lettre capitale sur un mot normal, ordinaire, commun, en cours de phrase, est une indication d'intensité. On ne peut pas en trouver un meilleur exemple que dans le texte numéro 7, c'est-à-dire un passage de ce livre souvent commenté, les Mechanic Exercises on the Whole Art of Printing, qui est d'un ingénieur, Joseph Markson, des années 1683-84, qui sont une minutieuse description des opérations dans un atelier d'imprimerie, et d'ailleurs avec peut-être une distance entre cette minutie et puis les pratiques réelles, qui sont évidemment beaucoup plus spontanées, accommodées, incohérentes. Certains pouvaient dire que si on respectait tout ce que dit Moxon pour l'impression du livre, on n'en imprimerait jamais aucun. Donc, c'est la distance de certains livres techniques par rapport à la technique. Mais néanmoins, il y a ce passage. Les mots qui supportent une grande emphase doivent être composés en italique et quelquefois commencent avec « a capital letter ». Si cette emphase, cet accent porte fortement sur le mot qui doit être exprimé, aussi bien que sur la chose qui doit être exprimée, il doit commencer avec une capitale. Je vais prendre pour exemple une observation que j'avais faite il y a déjà une quarantaine d'années sur le mot « that ». C'est-à-dire que ce mot peut être répété 5 fois et faire du sens. S'il est composé de cette manière, c'est-à-dire avec des lettres romanes et sans aucune capitale, comme that, 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 that. Bon, il n'y a pas aucun sens possible. Mais s'il est composé ainsi, that, 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 that man would have stand at the beginning of the line, should stand at the end, c'est-à-dire une phrase qui dirait que ce that, que cet homme avait, voudrait défendre pour le pour mettre au début de la ligne doit aussi se retrouver à la fin, il y a par l'accentuation et par l'emphase qui est mise sur le that du milieu, le troisième, une phrase qui a tout à fait du sens. Et maintenant aussi, tous les autres that doivent être composés en italique et celui du milieu doit commencer avec une lettre capitale parce qu'il est à la fois la chose et le mot. Donc vous voyez que cet jeu sur l'italique et surtout sur la lettre capitale fait que ce qui est visé, c'est the emphasis, le toning, et donc pour une indication qui est à la fois pour l'œil, mais qui est aussi pour la voix qui lit that, 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 that man. Et donc vous avez comme une sorte de, d'arche où la clé de voûte, c'est le that avec une lettre capitale. Et on voit que cet usage des capitales comme toning, accentuation, emphase, on la rencontre aussi dans les éditions de pièces de théâtre, par exemple ce passage en 8 que j'ai cité de Bajazet de 1672, alors que le vers ne suppose nullement grammaticalement ou par convention qu'il y ait des lettres capitales. Les deux lettres capitales sont mises pour l'emphase. J'ai cédé mon amant, tu t'étonnes du reste. Et là encore avec une sorte d'arche, puisque amant es-tu deviennent le point culminant de l'emphase par rapport au reste du vers qui commence et termine sur un ton plus bas. Donc, la leçon que j'avais déjà dit une fois dans un des séminaires, c'est d'être très attentif aux lettres qui portent des capitales dans les éditions anciennes ou dans les textes manuscrits anciens. Ce n'est pas une distribution au hasard ou sans signification. C'est une distribution qui était un autre des dispositifs pour essayer d'inventer ce qui n'existe pas, c'est-à-dire une ponctuation d'intensité, pitches, de hauteur de voix, et non pas simplement une ponctuation de pauses, longueur des pauses. Et on voit l'appropriation de cette possibilité par un certain nombre d'auteurs, j'avais cité dans le premier séminaire, je crois, La Bruyère, qui utilise à la fois les durées de pause, les lettres et les lettres capitales pour donner comme matrice à l'écriture de ces caractères les formes d'une composition musicale. Et c'était là où les éditeurs les plus contemporains de La Bruyère ont restitué quelque chose de fondamental dans l'écriture et la publication des caractères, c'est-à-dire cette utilisation d'un modèle musical à la fois pour la composition du texte et pour la transmission du texte, adressé à une voix lectrice et composé comme s'il s'agissait d'une partition. Et lorsque les éditeurs antérieurs ne l'ont pas compris, ils ont modifié profondément la ponctuation, mais ont détruit ces effets. Et en particulier, ce n'est pas forcément le meilleur exemple que j'ai trouvé là dans le numéro 9, mais ont parfois, par une standardisation de la ponctuation, tué un effet qui consiste pour La Bruyère à multiplier des séquences très courtes avec des virgules, comme s'il s'agissait en musique d'un staccato, et ensuite des séquences plus longues dans lesquelles il n'y a pas de ponctuation, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'un largo. Et il y a là une alternance de rythme liée à l'utilisation subtile et musicale des durées de pause qui produit des effets. D'autre part, l'introduction d'une ponctuation lourde, hérité des grammaires, peut-être du XVIIIe, surtout du XIXe et du XXe siècle. C'est-à-dire, le point final, les guillemets, ont déformé le texte. Alors, j'ai pris cet exemple du même texte sur Arias, d'abord dans une édition moderne, celle de Garapon, 1964, et puis dans la première édition, celle de 1996. Alors, les différences ne sont peut-être pas aussi spectaculaires que mon discours les annonce, mais néanmoins, elles existent. Vous voyez que l'édition moderne a introduit très vite un premier point final. Quelqu'un se hasarde de le contredire, Arias, et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Point. Arias ne se trouble point, prend feu, au contraire, contre l'interrupteur. Deux points, guillemets. « Je n'avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d'original. Je l'ai appris de Séton, ambassadeur de France, dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Point, fermez les guillemets. Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé lorsque l'un des conviés lui dit, deux points, guillemets, « C'est Séton à qui vous parlez lui-même et qui arrive de son ambassade. » Point final, guillemets fermés. C'est-à-dire, bon, le thème, c'est cet Arias qui se vante de tout savoir et d'avoir appris auprès de l'ambassadeur des nouvelles, et c'est à l'ambassadeur lui-même qu'il adressait cette vantardise. Alors, on voit qu'il y a une ponctuation plus lourde que celle du texte de la première édition, puisque vous voyez tout de suite, il n'y a pas de guillemets. Les guillemets ne sont pas utilisés. Les propos rapportés sont introduits dans la fluidité de l'écriture, simplement précédé d'un point virgule, ou voire d'une seule virgule. Et donc, il y a donc une continuité entre le texte rapporté et le texte qui commente le texte rapporté, et deux majuscules ont été introduites, qui sont à la fois là des majuscules d'institution et des majuscules d'intonation, pour cours, et pour ambassade. Mais le plus spectaculaire, c'est évidemment ce mouvement comme une continuité musicale qui est donnée lorsque vous n'introduisez pas des points finaux dans la totalité du texte pour n'arriver qu'à la dernière phrase et au dernier mot. Et là, il y a le point final, comme la fin de l'aria. Vous voyez ce que ça donne. Quelqu'un se hasarde de le contredire et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point, prend feu, au contraire, contre l'interrupteur. Je n'avance, lui dis-je. Lui dit-il, je ne raconte rien, que je ne sache d'original. Je l'ai appris de cette heure, ambassadeur de France, dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé et qui ne m'a caché aucune circonstance. Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé, lorsque l'un des conviés lui dit « C'est Séton à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade. » Donc le texte est dans la fluidité, dans la continuité, et non pas dans ces deux points finaux qui ont été introduits après vrai, après circonstance, et aussi dans ces guillemets qui créent une rupture de registre de langage par rapport au mouvement de continuité de ce que voulait la Bruyère. Il y aurait de très nombreux exemples de comparaisons entre les éditions modernes jusqu'aux plus récentes qui ont pris conscience de cela, qui ont réintroduit les ponctuations d'origine telles qu'on les rencontre par exemple dans la première édition de 1696 et qui ont réintroduit aussi les capitales pour les mots qui en portent, considérant qu'il y a là un effet visuel, le mot est détaché, cours, ambassade, et un effet sémantique, le mot parfois autre que d'institution, elle doit être marquée avec une emphase dans la lecture à haute voix. Alors, les remarques autour de cette tension sont importantes parce que, d'une part, elles montrent là encore la nécessaire attention aux textes dans la manière dont ils ont été composés, imprimés, reçus par les lecteurs, et du coup, montrent qu'un genre comme la littérature morale, et on pourrait faire la même démonstration avec La Rochefoucauld, comme la littérature morale est aussi un genre qui est dirigé vers la parole, qui est un genre qui est lu à haute voix et qui n'est pas simplement, comme nous ferions nous aujourd'hui, une partie peut-être d'un genre à la fois philosophique et satirique. Et certains metteurs en scène l'ont compris, qui ont donné, sinon des mises en scène, mais au moins des lectures publiques et théâtrales des caractères de la Bruyère, comme Jean-Marie Villégier. On est donc là devant un texte qui est adressé à l'haleine de l'homme, comme aurait dit Étienne Dolet, c'est-à-dire au souffle, et à la manière de marquer des pauses ou de montrer un mouvement de fluidité continue et de hausser le ton, comme l'aurait voulu Ronsard pour la Franciade. Alors, arrivé à ce point de la réflexion, il y a une question qui n'a pas été posée et qui pourtant est tout à fait fondamentale et qui peut être aussi une question de méthode pour tout le monde, particulièrement ceux qui travaillent sur les 16e, 18e siècle, mais pas seulement. C'est-à-dire, qui est responsable de la ponctuation dans un texte ancien ? Et j'ai volontairement confondu les réponses jusqu'à maintenant, en considérant que le responsable pouvait être l'auteur, en considérant que le responsable pouvait être l'imprimerie, correcteur, enfin, que pouvait être l'éditeur du texte, ou le correcteur, et ou finalement de considérer que la ponctuation pouvait être le résultat de la composition par les ouvriers qu'on appelle compositeurs, c'est-à-dire typographes. Donc il y a trois acteurs possibles, l'auteur dans son manuscrit, le copy-éditeur ou correcteur ou éditeur au sens anglais qui établit le texte pour la composition, et finalement l'ouvrier typographe, le compositeur. C'est important dans la mesure où on peut reconnaître le fait que, comme l'écrivait Malcolm Parks dans un livre important qui s'appelle « Pauses and Effects, An Introduction to the History of Punctuation in the West », un livre de 1993, il disait « La ponctuation imprimée, je traduis, peut refléter celle de l'auteur, celle de la personne qui prépare la copie pour l'impression, celle du compositeur, ou les trois. » Et je crois qu'on peut même ajouter à la liste un quatrième acteur de la ponctuation, pas forcément imprimé, mais manuscrit dans les livres imprimés, qui sont les lecteurs eux-mêmes, souvent invités par les imprimeurs à non seulement établir des listes des errata rencontrés dans les livres, mais aussi de ponctuer, selon leur propre jugement, des textes qui n'auraient pas ou auraient été mal ponctués. J'ai donné deux exemples au numéro 10, qui sont deux adresses au lecteur, Printer to the Reader, dans deux livres pris un peu au hasard. 1565, un livre de Abraham Hardwell, Regine Elitere, Siwede Elisabete Regine in Academia Cantabriensis Adventu. C'est un livre publié à Londres en 1565. Et vous voyez que l'imprimeur s'adresse au lecteur en disant la chose suivante. À la fois, l'inversion où la transposition de lettres est très fréquente. Et les signes de ponctuation ont été soit totalement oubliés, soit placés malencontreusement. Vous devez donc attribuer ces erreurs qui sont entrées dans le texte, soit à ma hâte pour publier, soit à la poorness of my type, c'est-à-dire la pauvreté de ma case, la pauvreté du nombre de polices de caractères dont dispose cet imprimeur. J'ai énuméré ci-dessous les erreurs qui gâtent le sens du poème, which spoil the meaning of the poem, de façon à ce que vous pouvez excuser les moins importantes et corriger celles qui sont les plus sérieuses. Donc ici, on est devant une liste dans l'avis au lecteur et le lecteur est invité à reporter à la main, avec sa plume, dans le texte imprimé, les corrections de ponctuation qui lui sont indiquées par l'imprimeur. Dans le deuxième cas, 1543, John Chrysostome, une édition de Jean Chrysostome des Homélies, il y a plus. Quand vous trouverez que la ponctuation manque et que les accents ont été soit mal distribués ou même complètement oubliés, ce sera un acte de gentillesse de votre part, gentle reader, d'émander, de les émander selon votre jugement, according to judgment, qui est un jugement de bon sens et un jugement partagé. Et donc, vous voyez qu'on peut ajouter à la ponctuation de l'auteur, à la ponctuation de l'éditeur, au sens de copy-éditeur, à la ponctuation du compositeur, au sens d'ouvrier-typographe, les ponctuations qui seraient celles indiquées ou décidées par les lecteurs eux-mêmes. C'est du moins ce à quoi invitent les imprimeurs anglais. Là, on était donc là avec le numéro 10 dans le dossier. Ce qui est certain, c'est que, comme on l'a vu souvent dans ces séminaires ou dans les cours, le rôle des correcteurs d'imprimerie et le rôle des compositeurs typographes ou typographes typographe étant plutôt un mot du 18e, 19e siècle, les compositeurs dans toutes les langues, un mot des 16e, 17e siècle, componedores, compositors. Leur rôle est considéré comme fondamental dans le passage d'un texte manuscrit, celui de l'auteur ou de copie de celui de l'auteur, à un texte imprimé adressé au lecteur. J'ai repris deux textes ici que j'ai souvent utilisés. Le premier, 1675, Melchor de Cabrera Nunez de Guzmán, c'est un discours légal, juridique, historique et politique pour montrer l'origine, les progrès, l'utilité, la noblesse et l'excellence de l'art de l'imprimerie. En fait, c'est pour justifier des exemptions et des immunités fiscales des imprimeurs de Madrid. Mais il construit toute une argumentation qui veut montrer que l'imprimerie est un art libéral et non pas mécanique, et que donc, du coup, elle doit bénéficier des exemptions fiscales qui sont attachées aux arts libéraux. Et dans ce discours, il introduit le rôle important del componedor, du typographe. Pourquoi ? Parce que celui-ci doit percevoir l'intention, le concept, la conception et l'organisation du discours. Il doit savoir situer ou distribuer les points d'interrogation. Admiration, c'est le point d'exclamation, les parenthèses, parce que très souvent, l'esprit des écrivains est confus à ce sujet. Et lorsque manquent estos requisitos, lorsque manquent ces dispositifs, ces exigés, qui sont nécessaires et importants pour l'intelligibilité et la compréhension de ce qui s'écrit ou s'imprime, et parce que s'il manque l'un ou l'autre d'entre eux, muda, trueca y varia el sentido, le sens du texte est déplacé, transformé, inversé ou modifié. Il y a donc l'idée que les auteurs sont souvent très incertains et très confus quant à la ponctuation de leur texte, et que donc la tâche de cet ouvrier dans l'atelier qui compose avec les caractères mobiles le texte qu'il a en face de lui est une tâche essentielle pour la compréhension et l'intelligibilité des textes. Sinon, comme on l'a vu peut-être avec le premier texte, qui n'était pas ponctué, mais qui prouve qu'une ponctuation peut entraîner un sens et une autre ponctuation entraîner un autre sens, sinon le texte, l'intention de l'auteur, la signification du texte peut être transformée, inversée ou modifiée. Et dans le texte suivant, qui est de quelques cinq années postérieures, ici il s'agit non pas d'un texte d'un avocat qui, comme Melchor de Cabrera Núñez de Guzmán, qui écrit pour la communauté des imprimeurs de Madrid. Il s'agit de quelqu'un qui a été compositeur et puis ensuite maître d'une imprimerie, Alonso Víctor de Paredes, et qui écrit ce livre vers 1600, enfin qui compose, parce qu'il explique à la fin du texte qu'il avait perdu son manuscrit et que donc il a composé directement avec les caractères mobiles le texte, sans passer par un moment de l'écriture, ce qui renforçait l'idée d'ailleurs qu'imprimer, c'est une autre manière d'écrire. C'était une illustration paradigmatique de cette idée que l'imprimerie est un art libéral, parce que finalement, on écrit avec des caractères mobiles, mais pas plus avec la plume, mais on écrit. Et donc lui, il prend littéralement, du moins c'est ce qu'il dit, cette figure. Et il dit, le correcteur, là on n'est pas avec l'ouvrier typographe, on est avec celui qui, dans l'atelier typographique, prépare la copie qui va être donnée à chacun des correcteurs, donc une phase antérieure. Le correcteur doit entendre ce que l'auteur veut, el concepto de la autor, dans ce qu'il envoie à l'imprimerie, pas seulement pour mettre la ponctuation nécessaire, la apuntuación legítima, mais encore pour voir si le texte n'a pas souffert quelque négligence de la part de son auteur, el dueño, dans ce cas-là, c'est lui le maître du texte, pour l'en avertir. On voit donc que dans ces textes, il y a deux choses. Il y a toujours l'idée que le texte est le résultat d'un processus collectif. Il y a bien entendu un auteur qui le conçoit, qui l'écrit, mais sa forme achevée, donnée à lire au lecteur, est une forme qui suppose d'autres contributions. Le lecteur ne lit pas le texte de l'auteur. Il lit un texte de l'auteur qui a été copié, qui a été préparé par le correcteur et qui a été composé par des ouvriers typographes. Et leur responsabilité est considérable dans la production de la signification de ce texte, et elle est considérable au point qu'elle peut suppléer ou corriger les négligences qui sont celles des auteurs. Il y a donc une sorte d'ennoblissement de la fonction de correction au sens de copy editor ou au sens de proofreader, de lecteur des épreuves, et de la fonction d'ouvrier typographe, de compositeur, puisqu'il participe non pas seulement de la fabrication du livre, mais de la production du texte. Et donc ça, c'est un élément, je crois, que tout à fait essentiel. Le deuxième élément, c'est ce qu'on a pu introduire dans le champ de la critique textuelle ou de l'histoire culturelle, et qui est l'attention portée à la matérialité du texte. Si l'on entend par matérialité du texte pas seulement les formes physiques des objets qui portent de l'écrit, la matérialité du livre, de la revue, du journal, avec leur format, avec leur reliure ou leur couvrure. Mais si on entend par matérialité des textes, l'inscription du texte sur la page et dans le livre, et donc du coup, la disposition du texte, présence ou non de division en paragraphes, présentation en deux colonnes ou sur une pleine page, rôle ou non de l'image qui accompagne le texte, choix, comme on l'a vu, de caractère, majuscule, italique, et décision aussi sur l'accentuation des mots, la ponctuation des phrases et la graphie elle-même des mots. Et du coup, on voit que la matérialité du texte fait qu'on ne peut pas séparer ce qui serait un texte devenu objet, parce qu'il est sur un objet qui circule, qui se transmet, qui est approprié, et un objet qui n'est pas comme les autres objets, parce que c'est un objet de texte. C'est un objet qui transmet dans une forme donnée le texte. Et c'est donc est tracé ainsi un questionnaire plus exigeant pour la critique littéraire ou pour l'histoire culturelle par cette attention portée à la matérialité du texte dans ce sens-là, c'est-à-dire le résultat sur la page des décisions soit convergentes, soit différente de tous ces acteurs qui sont impliqués dans la production du texte et la construction du sens, depuis l'auteur jusqu'au lecteur, en passant par deux figures centrales, le copy editor et le compositeur, mais on pourrait ajouter les décisions qui sont prises aussi par le maître imprimeur ou par le libraire, publisher, éditeur dans le sens de publisher. Donc, on a, je crois, là, quelque chose d'extrêmement important. Alors, du coup, l'accent mis sur l'un ou l'autre de ces acteurs a pu créer différentes formes d'approche des textes, et en particulier des textes anciens. Si on pense à ce savoir technique qui est celui de la bibliographie matérielle, la physical bibliography, analytical bibliography, qui vise à suivre le processus de composition d'un texte ou d'un livre dans un atelier typographique à partir des indices qui en apparaissent dans l'édition imprimée elle-même. Dans le cas de ce savoir, qui peut aussi avoir une autre dimension, qui est d'essayer d'identifier quel type de manuscrit, manuscrit de l'auteur, copie d'un scribe, dans le cas du théâtre, livre de régie, reconstruction mémorielle d'un sermon ou d'une pièce, quel type de manuscrit a pu être derrière le texte imprimé tel que nous pouvons le lire aujourd'hui. Dans cette discipline-là, qui est essentiellement focalisée sur le travail de la composition typographique et de l'impression dans les ateliers anciens, la figure centrale, c'est celle du compositeur, c'est-à-dire celle du typographe, qui peut être l'allié principal de cette étude pour laquelle, très généralement, ne subsiste aucun manuscrit, ni les manuscrits de l'œuvre dont on étudie la publication, ni les manuscrits qui seraient les archives de l'atelier d'imprimerie. Donc, c'est une reconstitution à partir de l'objet imprimé et des traces qu'ont laissées dans l'objet imprimé les processus de composition et d'impression que se construit cette interprétation. De là, le genre dominant dans cette perspective qui est celui des compositor studies, l'analyse de retrouver dans un livre imprimé quel compositeur, parce que tous n'ont pas les mêmes habitudes graphiques, tous n'ont pas les mêmes habitudes de ponctuation, de retrouver quel cahier, quel feuillet a pu être composé dans le livre par tel ou tel compositeur. Et il est impossible, dans 99% des cas, de leur donner un nom, puisqu'il n'y a pas d'archives. Donc, ils s'appellent compositeur A, B, C, D. Mais c'est cette science-là qui met l'accent sur les décisions des compositeurs ou typographes, et qui est d'autant plus important, ce rôle, lorsqu'on est devant, comme on le dit pour l'anglais des 16e, 17e siècle, comme l'ont dit Margherita de Grazia et Peter Stalibas, devant une langue qui a une plasticité phonétique, orthographique et sémantique, et on l'a vu avec les réformes de l'orthographe. Donc la liberté de décision ou d'appréciation est plus grande. Donc du coup, les variations entre différents compositeur qui préfère telle graphie ou telle autre, telle ponctuation ou telle autre, peut être suivi dans leur récurrence à l'intérieur des différents cahiers, formes ou feuilles du livre. Et Moxon reprend tout à fait cela, je n'ai pas cité le texte là, mais je peux le mentionner, lorsqu'il écrit, je n'ai que le texte français là, « L'ambition d'un bon compositeur doit être de rendre intelligible au lecteur le sens voulu par l'auteur et faire que son travail soit gracieux pour l'œil et plaisant pour la lecture. Si la copie est écrite dans une langue qu'il comprend, il doit la lire avec attention, de façon à entrer dans le sens voulu par l'auteur, et en conséquence, il doit considérer comment organiser son travail le mieux possible, tant pour la page de titre que pour le corps du livre. » Vous voyez que le compositeur, là, est pratiquement transformé en critique littéraire, puisqu'il doit établir quel est le sens du texte et du coup composé le texte avec les capitales, avec les italiques, avec les ponctuations qui correspondraient le mieux à ce sens pour le rendre déchiffrable par le lecteur. Et Moxon le dit, c'est-à-dire comment distribuer les paragraphes, la ponctuation, les coupures de lignes, les italiques, etc., de la manière la mieux accordée avec le génie de l'auteur et aussi la capacité du lecteur. On voit donc que là, dans cette perspective-là, qui est à l'intérieur de l'histoire du livre, la discipline de la bibliographie matérielle, le rôle central est donné à ce compositeur qui est en sorte un médiateur entre les intentions de l'auteur et l'œil du lecteur et qui a la responsabilité de faire le texte dans toutes ses dimensions que sont les divisions, les paragraphes, les ponctuations, le choix des caractères ou les accents. Il y a évidemment une deuxième perspective qui est celle où l'accent se déplace de l'ouvrier typographe au correcteur, c'est-à-dire ceux qui, dans les imprimeries, étaient chargés donc de préparer les textes pour ensuite la composition. Et c'est une figure qui est importante. Moxon dit que toutes les décisions du compositeur doivent être soumises en dernière instance au contrôle du correcteur qui, je cite, « examine les épreuves, considère la ponctuation, les italiques, les majuscules, ainsi que toute erreur que celui-ci a pu commettre par méprise ou par manque de jugement ». Donc, on a un rôle qui lui est donné, et on sait que dans les imprimeries des XVIe, XVIIe siècles, il y a des correcteurs qui sont chargés de préparer la copie et ensuite de corriger les épreuves. Et donc, finalement, d'intervenir avant et après le travail du compositeur typographe. Ce sont souvent des humanistes débutants, c'est-à-dire des gradués des universités, des clercs, des maîtres d'école qui gagnent leur vie comme correcteurs dans un atelier typographique. Et leur rôle est évidemment très essentiel parce que pour les textes anciens, c'est eux qui établissent les éditions des textes grecs ou latins. Et dans d'autres cas, ce sont eux qui peuvent intervenir sur une sorte de normalisation graphique ou linguistique des manuscrits en langue vulgaire. De là leur importance, par exemple, dans le cas de l'Italie du XVIe siècle, du Cinquecento. Paolo Trovato a montré que ce rôle décisif des correcteurs qui non seulement établissent le texte, mais en quelque sorte le toscanisent, puisque dans le cas de l'Italie, la pluralité des dialectes ou des langues écrites en rapport avec différents dialectes régionaux va se trouver au cours du XVIe siècle unifiée dans une langue italienne qui est le toscan. Et donc là, les correcteurs, non seulement, comme d'autres, imposent des normes de présentation ou une normalisation typographique, mais aussi une normalisation, une unification graphique et linguistique. Et dans certains cas, là, les correcteurs doivent intervenir aussi sur les manuscrits des auteurs contemporains, non pas comme établissant les textes des anciens, non pas comme normalisant les textes qui viennent du répertoire médiéval, c'est le cas en Italie, Dante, Petrarca, Boccaccio, tous doivent être normalisés dans les éditions imprimées qui les toscanisent. Mais les auteurs contemporains et contre lesquels très souvent des plaintes sont adressées. C'est pour ça que j'ai cité ce texte de Hieronymus Anjur, qui date de 1608, l'Orthotypographia, dans lequel il vilipende les auteurs qui envoient des manuscrits aux imprimeurs qui sont pleins de négligence ou qui ont été copiés par des scribes très peu soigneux. Et alors, il reprend dans le texte que j'ai cité ce qui est presque le plus important de tout et qu'il mette une ponctuation exacte, distincte scribatur. Car chaque jour, de nombreuses erreurs sont commises par beaucoup de gens dans ce domaine, les peccatur. Il pêche. Et en poésie, carminibus, carmen, carmen. Et en poésie, rien n'est plus fâcheux et plus blâmable que le nombre de gens qui omettent la ponctuation. Plures puncta distinctionis omittunt. qui ne ponctuent pas leur texte. À coup sûr, une bonne ponctuation apporte une grande élégance au texte et plus que toute autre chose permet une bonne compréhension du sujet, alors que, ne pas s'en soucier semble être le fait d'un esprit dissolu. Habere dissolute et sevidetur, c'est vu comme quelque chose de dissolu. Donc on voit que là, que c'est la tension entre les manuscrits remis par les auteurs ou par leurs scribes, très insuffisants, et d'autre part, la difficulté ou l'embarras du correcteur qui doit corriger. Donc à la fois, il y a le rôle assumé d'être des contributeurs à la production du texte, mais il y a en même temps que le rôle un peu lourd et écrasant de ceux qui sont confrontés à des manuscrits, à des copies d'imprimerie tout à fait insuffisantes. La dernière perspective, si la bibliographie matérielle a porté l'accent sur le typographe, si une tradition philologique a porté l'accent sur les correcteurs, on peut dire qu'une tradition littéraire et historique a porté l'accent sur les auteurs, considérant que les auteurs eux-mêmes peuvent être responsables des ponctuations, même si l'on sait qu'évidemment, presque jamais un manuscrit d'auteur était le texte utilisé comme copie dans un atelier d'imprimerie, qu'il avait le plus souvent, c'est systématique en Espagne, été copié par un scribe professionnel pour qu'une copie propre puisse être lue par les censeurs et ensuite travaillée par le copy editor. Mais néanmoins, à travers cette copie, pouvait subsister quelque chose d'une intention auctoriale. Et les dictionnaires enregistrent cette tension entre la ponctuation attribuée au correcteur et la ponctuation attribuée à l'auteur, du moins à certains auteurs. Au numéro 13, j'ai cité Furtière, où l'on voit qu'à l'article ponctuation, il dit « observation grammaticale ». C'est intéressant, puisqu'on a pris une première distance par rapport à la ponctuation d'oralité. On est en 1690. « Observation grammaticale des lieux d'un discours où on doit faire de différentes pauses et qu'on marque avec des points et petits caractères pour en advertir le lecteur. Il y a plus de difficultés qu'on ne pense à faire bien la ponctuation. » Et il ajoute un exemple, « Ce correcteur d'imprimerie entend fort bien la ponctuation. » Donc, dans l'article ponctuation, la ponctuation est exemplifiée par le correcteur. Mais dans l'article virgule, il écrit « Termes de grammaire », on est toujours dans cet univers où la ponctuation a commencé à basculer du côté de la grammaire. « L'exactitude de cet auteur va jusque-là, qu'il prend soin des points et des virgules. » Donc, certains auteurs sont remarquables par leur exactitude à surveiller, à contrôler la ponctuation. Alors, quels sont ces auteurs ? On en a rencontré. Ronsard, La Bruyère. Un exemple que j'avais essayé de travailler, c'était l'exemple de Molière. Alors, évidemment, il serait très audacieux d'attribuer directement et seulement à Molière les ponctuations qu'on rencontre dans les éditions imprimées, puisque la médiation du travail des correcteurs et du travail des compositeurs, des typographes, crée évidemment des écrans entre ce que pouvait être le manuscrit de Molière ou sa copie et la page imprimée. Néanmoins, on peut que parfois... Et d'autre part, il y a un second argument qui pourrait nuancer l'attribution à Molière de la ponctuation. Ce n'est pas seulement un fait général qui est que les ponctuations se font dans l'atelier plus que dans l'écriture, mais un fait plus particulier qui est lié au théâtre, qu'on a évoqué plusieurs fois dans le cours, c'est-à-dire que pour Molière, l'édition imprimée est tout à fait seconde par rapport à la représentation théâtrale. Durablement, jusqu'aux Précieuses Ridicules, il n'a jamais fait imprimer aucune des pièces qui étaient antérieures. Rhétorique ou réalité, lorsque les Précieuses Ridicules les fait imprimer, c'est pour contrebalancer une édition pirate avant la lettre et à partir d'un manuscrit dérobé. Et dans beaucoup d'adresses aux lecteurs qui ouvrent les éditions, lorsque Molière prend la plume ou la parole, il renforce cette idée que le théâtre est fait pour être joué. Un exemple, L'amour médecin, 1665, publié en 1666. Il n'est pas nécessaire de vous avertir qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'action. On sait bien que les comédies ne sont faites que pour être jouée. Et je ne conseille de lire celle-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. Alors parfois, les éditions aident ces yeux qui découvrent du jeu à l'intérieur de l'inertie des pages imprimées, parfois avec une illustration, en particulier au frontispice de l'édition, parfois avec les indications scéniques, les didascalies qui indiquent les mouvements des personnages, mais aussi, on peut le penser, grâce à la ponctuation. Dans la mesure où l'on voit que lorsqu'on compare, comme je l'ai fait pour La Bruyère, des ponctuations des premières éditions du XVIIe avec les ponctuations, disons, du XVIIIe et de la tradition des éditions de Molière, on voit de très grandes différences. D'abord, les ponctuations des premières éditions sont toujours plus nombreuses et souvent permettent des caractérisations des personnages qui sont perdus par la normalisation de la ponctuation. Un exemple célèbre, c'est pour Tartuffe, lorsqu'il est décrit comme ceci, gros, virgule, et gras, virgule, le teint frais, virgule, et la bouche vermeille. Ça, ce sont les premières éditions. Le plus souvent, dans les éditions modernes, vous avez gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Mais là, le Tartuffe est mieux portraituré, est mieux détaché lorsque gros, virgule, et gras, virgule. Il y a là un effet de description et aussi un effet un peu comique, puisque c'est pratiquement les deux synonymes, mais qui font qu'il est de plus en plus gros au fur et à mesure que se déroule le vers, qui est marqué par cette ponctuation. Ou bien un jeu qui est un peu perdu dans les éditions modernes, c'est dans Le Bourgeois Gentilhomme, il y a des ponctuations très différentes pour le maître de danse, avec des phrases pratiquement sans ponctuation, très fluides, comme les mouvements du danseur, et le maître de philosophie, avec la ponctuation pédante, qui hache les clausules du discours. Mais surtout, ces ponctuations originelles permettaient des effets à la fois poétiques et des effets sémantiques. Et l'exemple que j'avais cité de mémoire dans le premier séminaire, je l'ai remis ici, c'est-à-dire l'exemple des deux derniers vers de Tartuffe. Vous voyez que dans la première édition, 1669, est-ce que c'est la volonté de Molière, l'intelligence d'un compositeur, le souvenir de la manière dont les vers ont été dits. Mais vous voyez que dans cette manière, il y a, et pas, c'est Orgon qui parle, là, tout se termine bien, que sa fille va pouvoir épouser Valère et non pas Tartuffe, dont les méchancetés, les perfidies ou les hypocrisies ont été découvertes, et par un doux hymen, couronné en Valère, la flamme d'un amant généreux et sincère. Donc, il y a le détachement du dernier mot qui est l'antonyme du mot du titre, l'imposteur. Et cette ponctuation est conservée en 73 chez Barbin. Et par un doux hymen couronné en Valère, la flamme d'un amant généreux et sincère. Et la ponctuation de l'édition moderne des œuvres complètes dans Louis Morland, je crois, il y a un R qui a sauté, a oublié la virgule. Et par un doux hymen couronné en Valère, la flamme d'un amant généreux et sincère. C'est-à-dire que l'effet est perdu. L'effet poétique des 9 pieds plus 3 pieds est perdu, et l'effet sémantique du détachement du mot antonyme du texte, qui donne finalement le sens de la pièce, est sincère. La sincérité des sentiments contre l'imposture de la feinte est aussi, sinon perdue, mais du moins profondément atténuée. On voit donc qu'il y a là une importance très grande donnée à la ponctuation, quel qu'en soit l'auteur. Alors, pour presque conclure, on peut dire que dans l'Angleterre du XVIe, XVIIe siècle, comme on l'a vu avec Marlowe et le Eduardum occidere timere nolite bonum est, on joue avec ces effets ou inversions de sens que permettent les ponctuations. Il y a tout un genre poétique qui est caractérisé comme punctuation poems et où le sens peut être différent si on lit la ponctuation au milieu du vers ou à la fin des vers. Et Shakespeare, à nouveau, fait une utilisation tout à fait spectaculaire de ces jeux avec la ponctuation à la fin du Songe d'une nuit d'été, lorsque les artisans qui vont présenter à la cour leur comedy of Pyramus and Thisbe arrive face à la cour et où Quince, qui joue le rôle du prologue, parce qu'il se trompe dans les poses, va inverser le sens de sa louange du public. Alors vous voyez que d'abord, j'ai mis le texte tel qu'on le trouve dans l'édition de 1600, et tel qu'on le trouve aussi dans le texte du Folio, et où là, les compositeurs ou le correcteur, s'il y en a eu un, a surveillé que la ponctuation soit bien respectée dans ses erreurs, de façon à ce que l'effet comique subsiste, puisque vous voyez que là où, en italique, le texte devrait être « Si nous vous offensons, c'est avec notre bonne volonté que vous devez penser que nous ne sommes pas venus ici pour vous offenser. If we offend, it is with our good will that you should think we come not to offend. Mais avec intention, nous sommes là pour vous montrer notre habileté simple, ce qui est le vrai commencement de notre fin. Et l'erreur de Quince fait que le sens devient inversé. If we offend, it is with our good will. Point. Si vous nous offensons, c'est parce que nous le voulons. That you should think we come not to offend, but with good will. Et que vous pensiez que nous ne venons pas pour vous offenser, mais c'est là notre intention. To show our simple skill, that is the true beginning of our end. Montrer notre simple habileté, c'est là le vrai commencement de notre fin. C'est un texte extraordinairement difficile à traduire, parce que, évidemment, ce jeu d'inversion est très difficilement rendu dans une autre langue sans changer un seul mot. Là, le génie de Shakespeare, c'est de faire deux sens opposés sans qu'un seul mot ne soit changé, uniquement les pauses, donc uniquement la place des points de finaux. Alors, dans la traduction qui existe chez Bouquin, voilà ce que le traducteur a pensé. Si nous vous déplaisons, c'est bonne volonté. Point. Mais ne pensez pas que nous venions pour vous déplaire, mais pour montrer notre bien peu d'habileté. C'est le commencement de la fin de l'affaire. C'est proche du texte, mais évidemment, c'est difficile à rendre. Mais le point fondamental, alors le commentaire après de Thésée, le prince, est « Le gaillard ne tient aucun compte de la ponctuation, upon points », et Lysandre lui dit « Il a chevauché son prologue comme un jeune poulain, il ne connaît pas l'arrêt, là le jeu est sur stop, puisque full stop, et l'équivalent de period, c'est-à-dire point final, est le jeune cheval ne connaît pas comment s'arrêter. Il ajoute, la morale à tirer de cela, monseigneur, c'est qu'il ne suffit pas de parler, il faut parler juste, to speak true. Et Hippolyta, elle ajoute, en vérité, il a joué ce prologue comme un enfant le fait d'une flûte, a recorder. Le son est là, mais pas le contrôle. Et finalement, Thésée conclut, son discours était une chaîne emmêlée, rien abîmé, mais rien à sa place, à qui le tour. Et d'ailleurs, le mot chaîne ici pourrait être ambigu, parce que ça peut être effectivement une chaîne de métal qui s'est emmêlée, mais ça pourrait être aussi une autre référence qui me paraît plus vraisemblable, c'est-à-dire comme dans un tissu où l'on parle de la trame et de la chaîne, et qui correspond à une métaphore classique, qui est celle du texte comme textile, du texte comme tissu. Et donc là, ce serait la chaîne du texte qui aurait été complètement emmêlée par cette absence de ponctuation correcte, et avec cette première phrase qui est la plus forte, puisque dans une captatio benevolentiae, il commence, lui, par « If we offend, it is with our good will », c'est notre bonne volonté que de vous offenser. Alors, on voit donc que le jeu est tout à fait possible et qui serait là l'application dans une sorte d'art poétique ou dramatique du constat des effets de signification produits par ponctuation. Alors, deux conclusions. La première conclusion, qui est une conclusion de méthode, c'est-à-dire comment penser ces variations de ponctuation au-delà du jeu poétique ou du jeu dramatique. C'est-à-dire, est-ce que si on essaye de les penser dans la synchronie et la diachronie, faut-il être plutôt favorable à une perspective globalement vérifiée, qui est une perspective de déplacement d'une ponctuation d'oralité à une ponctuation grammaticale et syntaxique, comme si on éloignait le texte des voix pour les soumettre à la grammaire dont parle Furtière? Ou bien peut-on ou doit-on considérer qu'à la même époque, plusieurs types de ponctuation pour le même texte correspondent à dans le même texte à différents usages, soit aux usages de différents textes, c'est-à-dire les textes qui supposent une ponctuation, comme disait Bonnefoy, syntaxique, qui donne à comprendre les articulations intellectuelles du discours, et des textes qui, parce qu'ils proviennent ou se destinent à l'oralité, utilisent une ponctuation rhétorique. Et dans l'autre cas, c'est-à-dire le même texte avec des ponctuations correspondant à différents usages, c'est ce qu'on peut trouver, par exemple, dans des éditions imprimées de théâtre qui sont préparées par un acteur, qui, comme je l'avais trouvé montré pour un Hamlet de 1676, ne se contente pas de la ponctuation imprimée, qui ne suffit pas pour l'oralité du texte, et qui ajoute à la plume un système de ponctuation dans un texte imprimé, parce que son système à lui correspond à la manière dont il va dire les vers d'Hamlet. Et donc, dans ce cas-là, aux quatre pauses, virgule, point virgule, deux points, point final, il ajoute deux autres durées de pause, un tiret court et un tiret long, et il introduit, dans le « to be or not to be », par exemple, point d'interrogation et point d'exclamation. Donc, on voit bien là qu'il y a le même texte avec deux ponctuations, alors là, superposées sur la même page, celle de l'édition imprimée et celle de l'acteur qui prépare le texte pour son oralité. Donc, on voit qu'il y a là deux perspectives possibles. L'une qui est plutôt diachronique, succession d'un système à un autre, et l'autre qui est plutôt synchronique, c'est-à-dire utilisation de deux systèmes de ponctuation dans le même moment pour des textes différents ou pour des usages différents du même texte. Et ce qui nous renverrait à la dernière question que je veux évoquer, et qui est au XVIIIe siècle, le retour à l'accent mis sur une ponctuation d'oralité, ce qui irait un peu contre la thèse trop simpliste ou trop universelle du remplacement de l'oralité par la grammaire. Deux exemples. Le premier, celui du numéro 16, c'est-à-dire l'orthographe, la orthographia, publiée par la Real Academia d'Espagne en 1754. Et il y a là quelque chose qui surprend beaucoup. Lorsqu'on est habitué à lire l'espagnol avec une ponctuation particulière à la langue, qui serait son introduction tardive, et à une époque où, normalement, on ne devrait pas la rencontrer. Je lis. Après un large examen, il a paru à l'Académie que l'on pouvait utiliser le même point d'interrogation, la nota de interrogación, en la mettant à l'envers avant le mot qui commence une phrase de ton interrogatif, en plus de celle qu'il faut mettre à la fin de la phrase d'une manière régulière. Et ceci pour éviter les erreurs que par l'absence de ce point d'interrogation souffre communément la lecture des discours longs. Vous voyez que là, l'idée est qu'on est toujours dans l'oralité. C'est pour aider à l'oralité d'un texte que l'on va mettre non seulement un point d'interrogation à la fin de la phrase, mais un point d'interrogation inversé au début de la phrase interrogative, et comme cela, le lecteur ne ne se commettra pas d'erreur et le texte ne va pas souffrir, ne va pas défaire, sinon que la voix va être correctement posée et le ton de la phrase interrogative d'emblée donné comme il se doit. L'autre exemple, et final, c'est le texte 17, c'est celui de Benjamin Franklin qui nous fait revenir, dans un sens, à la référence au modèle espagnol. C'est un texte dans une lettre du décembre 1789 qui l'envoie à Noah Webster. Alors, je lis en traduisant assez librement. Pour être plus sensible encore aux avantages d'une impression claire et distincte, considérons l'assistance qu'elle peut donner pour la lecture à haute voix bien faite devant un auditoire. In reading well aloud to an auditory. En faisant cela, c'est-à-dire en lisant à haute voix, l'œil généralement glisse deux ou trois mots avant celui que lit la voix. Il a une intuition de ce qu'on appellerait maintenant le découpage de l'œil, le span high, qui fait que l'œil lit un mot, mais en même temps est déjà en avant par rapport à ce mot. Si la vue peut clairement distinguer les mots qui vont venir, elle peut avoir le temps de commander une modulation correcte de la voix pour les exprimer, modulation of the voice. Mais si l'impression n'est pas claire et confuse par l'absence des lettres capitales et des longues S ou autrement, le lecteur va se trouver dans une situation où il va moduler la voix de manière erronée et se rendant compte qu'il a fait ainsi, il est obligé de revenir en arrière et de recommencer la même phrase, ce qui, évidemment, limite le plaisir de ceux qui écoutent. Cela me conduit à mentionner une vieille erreur dans notre manière d'imprimer les textes. Nous sommes sensibles que lorsqu'il y a une question que l'on rencontre dans les lectures, une variation propre doit être utilisé pour la commande, le management de la voix. Nous avons donc un point qui est appelé point d'interrogation, qui est lié à la question en ordre, de manière à la désigner. Mais celui-ci est placé absurdement à la fin de la phrase interrogative, de façon que le lecteur ne peut pas le découvrir avant qu'il ait trouvé qu'il a modulé de manière erronée sa voix et il est obligé, en conséquence, de recommencer la phrase. Pour prévenir cet inconvénient, les imprimeurs espagnols, the Spanish printers, plus sensibles à cela, ont placé un point d'interrogation au commencement, aussi bien qu'à la fin d'une phrase interrogative, d'une question. Nous avons une autre erreur du même ordre dans l'impression des pièces de théâtre où il apparaît souvent une indication que quelque chose a été dit aside, en aparté. Mais le mot en aparté est placé à la fin du discours, alors qu'il devrait le précéder comme d'une indication pour que le lecteur puisse gouverner sa voix en conséquence. Alors, il imagine maintenant la situation de lecture qui est visée par cette recommandation. L'habitude de nos femmes de se réunir à 5 ou 6 ensemble pour former une petite partie où chacune est employée dans quelque travail utile pendant qu'une autre lit à haute voix aux autres est si recommandable en elle-même qu'elle mérite l'attention des auteurs et des imprimeurs de façon à la rendre la plus plaisante que possible, à la fois pour le lecteur ou la lectrice et pour ceux ou celles qui écoutent. On voit donc qu'il y a là une première localisation de ce retour ou de cette présence d'oralité, c'est-à-dire à l'intérieur d'une société féminine qui est celle où on travaille ensemble en écoutant un texte lu à haute voix et qui donc en elle-même requiert cette attention portée à l'acte de lecture et à tout ce qui peut à la fois le faciliter et le rendre plus compréhensible. Donc des ponctuations qui donnent tout de suite l'indication du ton de voix, par exemple interrogatif, et d'autre part, le fait que tout ce qui peut aider à la voix doit être donné avant au début de la phrase qui va être lue et non pas simplement à la fin. Mais il est clair que pour Benjamin Franklin, l'enjeu est bien au-delà de cette sociabilité féminine. Il est celui de la nouvelle cité politique, c'est-à-dire cette idée selon laquelle l'espace public doit être constitué par autour de la parole vive des orateurs. Mais évidemment, avec les colonies américaines devenues États-Unis, tous les habitants ne peuvent pas se rassembler comme dans la cité idéale de Rousseau ou comme dans le canton d'Appenzell en Suisse. Il faut donc trouver quelque chose qui permette de lier l'oralité de la délibération politique avec les dimensions d'une république qui n'est plus une cité comme l'était Athènes ou Rome. Et Franklin cherche la solution dans la possible reproduction à l'identique dans des lieux différents des discours qui sont donnés oralement, ce qui entraîne pour lui des conséquences dans le curriculum des études, où il voit apprendre aux jeunes gens la compétence de lecture à haute voix, et cela entraîne aussi des conséquences pour l'imprimerie, où le même texte imprimé ou manuscrit, qui va être lu par des lecteurs différents dans des lieux différents, doit donner des supports pour que cette lecture soit la plus exacte et la plus identique possible à une autre lecture. Et c'est pourquoi il y a chez Franklin cette référence aux Spanish printers, donc à la langue et à ceux qui, peut-être moins depuis moins longtemps qu'ils ne le pensaient, ont introduit dans le discours des signes qui permettent cette oralité. Et donc, je pense qu'avec le XVIIIe siècle, on a une tension entre ce qui est souvent souligné, la grammaticalisation d'une ponctuation devenue de plus en plus souvent syntaxique, mais d'un autre côté, des nostalgies d'oralité, et pour qu'elles soient assumées de manière la plus exacte possible, soit dans des formes de sociabilité, soit dans une définition de la cité politique, les innovations qui sont suggérées pour être introduites dans les textes. Donc voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui, ce dossier permet évidemment de mettre en place, au-delà même de son objet propre, certains points de méthode sur comment nous devons nous aujourd'hui lire et éditer des textes ou les citer, et qui met aussi en jeu, au-delà de la question de la ponctuation à l'époque moderne, la question plus vaste, plus complexe, plus provocante, en quelque sorte, des rapports entre oralité et écrit dans une dimension à la fois historique, sociologique et anthropologique. Donc, il nous reste peu de temps, mais si vous avez des questions, je serais heureux d'essayer d'y répondre à partir ou en dehors de ce petit dossier de